Alors, on va faire deux lectures ce soir. Donc, la première lecture, je vous l'invite dans Matthieu, chapitre 15. En fait, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais surtout Matthieu, Marc, Luc, ont plusieurs récits en commun. C'est tout simplement, non pas des versions différentes, mais par exemple, si chacun d'entre nous, ce soir, nous devions rentrer à la maison et faire un compte-rendu de la réunion, ben on dirait pas les mêmes choses. Certains seraient interpellés par la prière de l'un, alors que quelqu'un d'autre serait interpellé par la prière de l'autre. Donc chacun mettrait son souvenir tel que ça l'a marqué lui personnellement. Et c'est exactement la réalité des évangiles. Donc on va lire ce soir deux mêmes histoires, racontées un par Matthieu, l'autre par Marc, même si on pense que Marc n'est pas celui qui a vécu ces événements, et celui qui les a vécu après. Mais il est fort possible que Marc, qui a été pendant de nombreuses années le collaborateur de Pierre, il est fort possible que Marc retranscrive ce que Pierre lui a raconté de son temps avec Jésus. Vous comprenez ? Et donc on va lire cette même histoire racontée par deux personnes différentes, parce que vous allez voir qu'il y a une complémentarité, et on va justement s'amuser à mettre les pièces les unes avec les autres. Donc, vous êtes dans Matthieu ? Et vous êtes plus rapide que moi. Matthieu chapitre 15, je vous ai dit ça ? Ok. Est-ce que je vous ai dit le verset ?
Non.
Ah ben voilà, vous êtes en retard. Verset 21. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là. Alors quand il est parlé de là, c'est le cercle rouge. Ok ? Il était du côté de la Galilée. Mais je vous raconterai pourquoi il y a ça. Donc Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est le ovale que vous voyez en haut de la carte. C'est deux villes. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : Allez, renvoie-la, car elle crie derrière nous, elle nous casse les oreilles. Jésus répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi ! Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. La même histoire racontée dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus, étant parti de là, et alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit : Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit : À quoi cause de cette parole. Va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle retrouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Alors, on va faire un peu un mix de tous ces éléments et je voudrais surtout attirer votre attention sur quelques versets clés et surtout comprendre cette histoire. Et la première question et le premier élément qui va nous permettre de comprendre la raison de cette histoire-là, c'est déjà de se poser la question, mais qu'est-ce que Jésus est allé faire à Tyr et Sidon ? Je vous ai amené cette carte-là. Vous voyez les parties en vert et un peu en bleu ? Tout ça, c'était le territoire d'Israël de l'époque. D'accord ? Ce que vous voyez en vert, ce sont les chemins principaux. Je vous ai entouré en rouge. Là, c'est le secteur où Jésus était principalement. Et je vous ai entouré en bleu Jérusalem. C'est pour vous dire que Jésus, on voit hein, quand on lit les évangiles, il faisait beaucoup de voyages entre ces deux villes, d'accord ? Et là, on n'a pas lu la suite, mais après cette histoire, il nous est dit que Jésus retourna dans cette vallée-là, du côté de la mer, de Galilée, pardonnez-moi. La mer de Galilée, c'est là. Donc en fait, quand on lit l'histoire et qu'on regarde le périple de Jésus, Jésus est parti de la mer de Galilée, il est monté à Tyr et à Sidon, qui est un territoire étranger. C'est appelé la Phénicie à l'époque. Mais c'est un pays, territoire étranger. En plus, on a bien lu, il y va ne voulant se faire connaître de personne. Mais alors, pourquoi t'y vas, Jésus ? Est-ce que t'es allé pour prier ? Bah non. Parce qu'il faut de la route hein, pour y aller. Il y a une intention, il y a vraiment quelque chose. Il est parti avec ses disciples. Il n'est pas parti, on le voit de temps en temps, Jésus partait dans les lieux déserts, il se recueillait. On voit que de temps en temps, il y a une intention de Jésus d'être à part. Mais là, pas du tout. Il va là-bas. Il ne veut absolument pas que les gens le sachent. Il fait ce qu'il a à faire avec cette femme, il y a cette rencontre. Et après, il revient et continue son ministère. Donc la première question, c'est de dire, mais attends, quelle était l'intention de Jésus. Déjà, en fait, le fait de se poser cette question et de voir le périple, cela nous interpelle sur le fait que Jésus est parti là-bas avec une intention. Ce n'est pas une guérison comme les autres, alors qu'il y en a eu plein d'autres, de gens qui ont été délivrés de leurs démons ou des démons de leurs enfants. On a plusieurs histoires comme ça. Mais ça, c'est déjà l'élément qu'il faut comprendre. C'est que dans cette histoire, où souvent, l'histoire est axé sur le fait comme si Jésus avait essayé d'éprouver la foi de cette femme. En fait, je crois que l'on est à côté de l'objectif que Jésus a eu lorsqu'il a fait ce périple. Cette rencontre, Jésus l'a fait avec une femme cananéenne. Et là, on en rajoute une couche à notre histoire. Cette femme, elle est cananéenne, d'origine grecque, syrophénicienne, bref, en un mot. C'est une étrangère. Elle n'est pas juive. Ni d'origine, ni de territoire, ni de foi. Pardonnez-moi, mais c'est ça. C'est ça qui nous est expliqué. Cette femme-là, elle est aux yeux des juifs pieux. Ce qu'il y a de plus méprisable. Elle est à rejeter. Elle ne fait absolument pas partie des amis, au contraire, les Cananéens étaient historiquement les ennemis du peuple juif. Les ennemis historiquement. La prière de cette femme est simple, mais elle révèle déjà qu'elle a foi en cet homme qui s'appelle Jésus, dont elle a seulement entendu parler à la foi qu'il est Dieu, parce qu'elle va dire « Aie pitié de moi, fils de David. » Et ça, les gens qui disaient, qui appelaient Jésus comme étant fils de David, savaient qu'il y avait une prophétie dans l'histoire d'Israël et qu'un libérateur qui serait un descendant de David viendrait. Et cette femme qui seulement a entendu parler de Jésus, parce que de Tyr et de Sidon, elle a dû entendre quelques échos. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a su que ce Jésus était là. Et elle, dans son cœur, et là, regardez le chemin spirituel que cette femme a fait, loin, loin de Jérusalem, loin de l'identité spirituelle, loin de la culture juive. Elle a entendu parler de Jésus, et dans son cœur, de ce qu'elle a seulement entendu, sans jamais avoir rencontré, sans jamais avoir entendu les discours de Jésus, elle sait qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le libérateur. Et cette femme, qui sait qu'elle a affaire à un juif entouré de 12 autres juifs. Et ces gens-là, les juifs, faisaient tout leur possible pour ne pas avoir de relation avec ces étrangers-là. Cette femme va faire son possible pour aller voir Jésus parce qu'elle sait que Jésus seul est capable de délivrer sa fille. Cette femme-là, rien que ça, ça nous parle déjà de sa détermination et de sa foi, et de sa conviction, et de sa révélation de Jésus. Et là, on se retrouve face à une double réaction. La première réaction, celle que nous avons lue en Matthieu, au verset 23, Jésus ne répondit rien. Cette femme, elle est là, elle les suit. S'il te plaît, sauve ma fille, s'il te plaît, sauve ma fille. Et Jésus dit rien. Est-ce qu'on a déjà vu Jésus réagir comme ça? Une fois, avec un certain Bartimée, Jésus l'a laissé un peu crier, et puis après il l'a appelé. Mais Jésus ne dit rien. Ne croyons pas que quand Jésus ne dit rien, c'est qu'il est indifférent. En fait, Jésus ne dit rien parce qu'il veut laisser ses disciples parler. Dans cette situation-là, Jésus ne dit rien parce qu'il veut vraiment que ses disciples s'expriment, parlent, prennent position. Et qu'est-ce qu'ils disent les disciples? Mais renvoie-la! Elle nous casse les pieds! On va à la mer! Laisse-nous aller à la mer! Tirsino, c'est son là? Hey, on va à la plage avec Jésus! Hey, tu nous lâches un peu les baskets? T'es qui toi? Cananéenne, syrophénicienne, t'es grec? Nous on est les juifs! On est avec le Messie! Hein? Alors hey, du balai! Et il est écrit qu'ils insistèrent! Ils insistent! Et Jésus dit rien. Il les laisse insister. Pourquoi? Et en Matthieu, Jésus nous est dit qu'en fait, quand on lit Matthieu, il y a deux réponses. Et quand les disciples insistent en disant « renvoie-la », il est écrit « Jésus répondit ». Mais je crois que la réponse que Jésus donne n'est pas vers la femme. Les disciples insistent « vas-y, renvoie-la », et il est écrit « Jésus répondit ». Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quelque part, Jésus est en train de mettre dans leurs mots ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Parce que pour un juif, pour les juifs et pour l'équipe des disciples, Jésus, le Messie, c'est pour les juifs. C'est pas pour les autres. C'est pour nous le Messie. C'est lui qui va nous libérer. C'est lui la force. C'est lui le Tout-Puissant. Et c'est pour nous! Et c'est ce que dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues. Sous-entendu, n'est-ce pas? Mais oui, alors on voit là. D'ailleurs, c'est l'ordre que Jésus avait donné à ses propres disciples. En Matthieu chapitre 10, 5 versets avant, 5 chapitres avant, il leur avait dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ça leur convenait très bien d'ailleurs. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui! Car il y a quelque chose de très vrai, c'est que le message de la venue du Messie concerne premièrement le peuple juif. Ça fait des milliers d'années que le peuple juif est dans l'attente du Messie. Donc le message de la venue du Messie et l'arrivée du Messie devrait être accueilli premièrement par le peuple juif. Et c'est pourquoi les premières personnes qui ont entendu le message de l'Évangile, c'était les juifs. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses propres disciples, n'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les Samaritains. Allez premièrement annoncer la venue du Messie à ceux qui seraient susceptibles, les premiers de l'entendre et de le comprendre et donc de l'accepter. Alors, quand Jésus, avec ses disciples, se retrouve dans un pays étranger, à l'autre bout, ils ne peuvent pas aller plus loin, après c'est la mer, hein. Après c'est l'eau, et qu'ils se retrouvent là devant une femme qui insiste, sauve, 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 et que les disciples disent, Jésus, vas-y, renvoie-la, nous casse les pieds là. Et que Jésus dit, je n'étais envoyé que pour les brebis perdues. Oh, ben oui. Et ben, il y a là tout le nœud de cette situation. Parce qu'en fait, la réponse de Jésus, après, est tout autre. Et je vous le dis tout de suite, la deuxième réponse de Jésus, qu'on peut lire plus explicitement en Marc chapitre 7 et verset 27, la réponse de Jésus est à la fois pleine de nuances, mais elle est également prophétique. Jésus dit, et là c'est à la femme qu'il parle, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Jésus ne parle pas tout à fait comme les disciples. Évidemment, j'espère que vous comprenez l'image. Quand il parle du pain, il parle de la parole de Dieu et de toutes ses promesses. Quand il est parlé des enfants, c'est l'illustration du peuple d'Israël. Et quand il est parlé des chiens, il est parlé des païens. À part que Jésus a beaucoup de nuances. Parce que... parce qu'il va dire, laisse d'abord les enfants se rassasier. Il ne dit pas comme ces disciples, oh, c'est bon, va-t'en. Il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Et vous comprenez déjà le sous-entendu de la phrase. C'est-à-dire que eux, ils vont d'abord manger, et après, vous en aurez. Et c'est en ce sens que je dis que le propos de Jésus est d'ordre prophétique. Jésus n'exclut pas que le monde, les païens seraient exclus. Il dit d'abord, laisse mes enfants se rassasier, et après, vous aurez. En fait, ce passage-là, il est l'annonce de la proclamation de l'évangile à toutes les nations. C'est vrai, on connaît l'histoire de Pierre, qui lui va voir la vision de la nappe pour qu'il aille annoncer l'évangile à des Romains. On va voir le ministère de Paul, qui sera appelé l'apôtre des païens et qui sera l'instrument de bénédiction pour annoncer le message jusqu'à Rome. Donc Dieu s'est servi après de Pierre et de Paul pour annoncer, pour rentrer dans la phase active. Mais en réalité, le premier qui a ouvert la porte, c'est Jésus lui-même. Et en allant comme ça sur le territoire, jusqu'au bord des mers, Jésus est en train d'annoncer de manière prophétique qu'il amorce là le début de quelque chose qui s'accomplira au travers de Pierre, de Paul et de tous les disciples, parce que même au travers de la persécution, les chrétiens de Jérusalem ont pu répandre la bonne nouvelle à toutes les nations. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est parti dans ce coin-là, d'un point de vue prophétique. Il y a aussi beaucoup de nuances dans les propos de Jésus. Je ne sais pas si vous seriez très flatté si on vous traitait de chien. Pas top. Mais Jésus ne traite pas cette femme de chien. Il la compare à un petit chien. C'est quand même la même chose. Il y a quand même une différence, une nuance. Il y a une différence qui est marquée, mais il n'y a pas le mépris. Il n'y a pas le mépris. Il y a effectivement une distance qui est établie, mais avons-le aussi, une sorte d'affection qui n'est pas attendrie par un petit chien. Et c'est là qu'il est dans, que je parle de subtilité et de nuance dans le propos de Jésus. C'est qu'effectivement, il ne peut pas donner un autre titre à cette femme parce que c'est la vision que les Juifs ont des peuples païens. Mais par rapport à cette femme, il ne va pas la comparer à une chienne. Il va la comparer à un petit chien. Il y a une délicatesse à ne pas chercher à froisser, mais tout en parlant, tout en marquant la différence. Il n'est pas là pour mépriser, mais il est quand même en train de dire qu'il y a une différence entre le peuple juif qui a entendu des promesses et dont il doit être l'acteur actif et vous qui êtes là normalement que au bénéfice. Il y a une différence qui fait qu'il y a même un aspect très attendrissant, un petit chien, un côté très, très affectueux. Et pour ne pas dire même attirant, je crois que tous ceux qui ont eu des enfants ici ont vu leurs enfants être tout guirés auprès d'un chiot. Et nous-mêmes, nous sommes là, comme on a envie de toucher cette petite pelote de peau. Mais c'est ça. Il y a dans cette illustration que Jésus va donner, au-delà du mépris, il y a une marque de compassion. Et puis, il y a, par rapport à cette comparaison, la réponse de la femme. Et je trouve que ça fait partie des réponses extraordinaires. La plupart des réponses extraordinaires, je les trouve dans les paroles de Jésus. Mais là, il faut reconnaître que cette femme a une réponse magistrale, pleine de sagesse. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle foi, quelle humilité, quelle grâce, mais quel opportunisme spirituel. Quel opportunisme spirituel, mais au bon sens du terme. Seigneur, même si c'est une miette de toi, je sais que ça suffit pour que tu ailles guérir, délivrer ma fille. Amen. Et ça, que nous aussi, nous puissions garder ce modèle de foi. Ce n'est pas par ses mérites, elle ne justifie rien. Elle n'est pas en train de dire, mais moi je ne suis pas comme les autres. Elle n'est pas en train de dire, mais moi je sais que t'es le Messie. Elle dit, tu me prends pour un petit chien, pas de problème. De toute façon, moi je te demande juste une petite miette. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle puissance, quelle sagesse en cette femme. Et c'est ainsi. Et là encore, vous pouvez comprendre combien les disciples vont se prendre une claque magistrale. Parce qu'eux qui sont juifs, eux qui suivent le Messie, eux qui voient des miracles et des prodiges, combien de fois Jésus ne leur a pas reproché leur manque de foi? Combien de fois est-ce qu'il n'a pas été agacé par leur manque de foi? Combien de fois? Ah tiens! Jusqu'à quand est-ce que je vous supporterai? Il n'a pas dit ça à des syrophéniciennes, il a dit ça à ses propres disciples. Combien de fois est-ce qu'il dit homme de peu de foi? Pourquoi manquez-vous de foi? C'est bien ses disciples. Et pourtant, ces hommes-là qui étaient en train de rejeter cette femme, chasse-la, allez qu'elle s'en aille. Ils vont entendre leur propre maître dire à cette femme, tu as une grande foi. Ah, la claque. Eux qui suivent le boss, eux qui sont la dream team, eux ils se prennent régulièrement, vous n'avez pas de foi. Eux qui cherchaient à fouetter cette femme, à la rejeter. Oh, ils ne leur parlent pas directement, il suffit juste de dire, tu as une grande foi. Mais ils entendent très bien ça, les disciples. Et là, quelle déstabilisation dans leur repère. Eux qui étaient prêts à renvoyer quelqu'un que Jésus, que leur propre maître est en train de qualifier comme étant une femme avec une grande foi. Alors en conclusion, quatre petits points à retenir. Nous pouvons dire que ce message, que ce passage, que cet épisode avec ses disciples fut surtout un enseignement pour eux. Ce passage-là n'est pas uniquement pour la femme, elle n'est pas pour le ministère de Jésus en tant que tel, elle est essentiellement pour enseigner ses disciples. Pour leur montrer leur manque de compassion, pour leur révéler leur dureté de cœur, pour leur révéler leur attitude qui a besoin d'être changée à l'égard des nations étrangères. Premier point. Jésus les déstabilise dans leurs critères. Il les déstabilise dans leurs critères. Comment se fait-il que cette femme-là, à elle, tu leur dis qu'elle a une grande foi alors que nous, on te suit? Et nous, tu nous dis constamment qu'on a une petite foi. Donc là, ils sont déstabilisés par cette simple situation. Les disciples sont obligés de se remettre en cause par rapport à leurs critères. Troisième point, ce passage est une annonce prophétique. c'est l'ouverture. Jésus a ouvert la porte à ce qui se passera plus tard, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile. Il l'a fait justement, pas de Jérusalem en disant « Oh, les autres nations seront bénies », mais il est allé lui-même mettre le pied sur un territoire jusqu'au bord des mers pour effectivement signifier ce qui se passera et la volonté de Dieu, de la proclamation de la parole de Dieu. Et le quatrième point, on peut quand même dire quelques mots sur la femme. Il m'est arrivé d'entendre des commentaires disant que Jésus, en traitant cette femme de petit chien, il a essayé d'éprouver la foi de cette femme. Personnellement, je ne vois jamais Jésus éprouver la foi. Tout simplement parce que Jésus connaît notre foi. Quand il éprouve, on a besoin d'être éprouvé pour nous fortifier, mais Jésus n'a pas besoin d'éprouver. La Bible nous dit que Jésus connaît le cœur de chacun. Donc Jésus n'a pas besoin de tester pour savoir nos capacités. Mais je dirais complètement l'inverse. Je dirais que Dieu, Jésus, dans sa souveraineté, parce que Jésus sait tout, justement il connaît le cœur de chacun. Lui, alors qu'il était en Galilée, en tant que fils de Dieu, savait très bien ce qui se passait entre Tyr et Sidon. Donc c'est plutôt l'inverse. Je crois que Jésus, se servant de sa souveraineté et de son omniscience, est allé à la rencontre de cette femme de manière, on va dire, hasardeuse. Et il savait que la foi de cette femme serait suffisante pour s'entendre dire ce genre de remarques, pour que cette leçon qui était plutôt attribuée aux disciples, elle puisse être au bénéfice d'une situation dont il savait qu'elle s'en sortirait de manière pleine de sagesse, pleine de force. Parce que quand même, la phrase de cette femme, elle est incroyable, elle est inspirée, j'ai envie de dire. Et donc je crois qu'au contraire, Jésus, connaissant cette situation, savait qu'il pouvait se servir de cette circonstance pour enseigner ses disciples et être en sujet de bénédiction pour elle, pour sa fille et pour toutes les nations. Parce que si Jésus n'avait pas annoncé prophétiquement que le reste du monde serait aussi rassasié de ce pain béni, alors nous serions encore, nous, ce soir, dans l'ignorance. Amen.